D'un point de vue formel, il y a des adversaires pour cette élection présidentielle, mais dans la réalité, dans les faits, le seul qui est en mesure à la fois de faire campagne et de mobiliser des moyens très importants, c'est le président sortant. Il bénéficie des moyens de l'État, il bénéficie des moyens d'administration dans toutes les wilayas, dans toutes les préfectures du pays. On l'a vu hier lors du meeting qui a eu lieu dans le grand sud algérien à Tamanrasset. On a vu son ancien premier ministre, le président du Sénat et une flopée de ministres et de personnalités de l'appareil d'État être présentes en l'absence du président. C'est quand même, je crois, du jamais vu, bien au-delà de l'Algérie, sur le continent africain et ailleurs, qu'un candidat à sa propre réélection ne fasse pas campagne et ne soit présent dans aucun meeting. Donc les jeux sont faits, tous les Algériens le savent. La seule question aujourd'hui importante, c'est de savoir quel sera le taux de participation.
Abdelaziz Bouteflika, est-ce le candidat par défaut ?
Non, ce n'est pas un candidat par défaut, c'est un candidat qui a choisi, et qui a même fait peser pendant très longtemps un espèce de suspense, à la fois sur ses différents adversaires, mais en même temps sur l'Algérie, sur le pays. Mais c'est quand même ça qui est le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on se demande bien quelle est la préoccupation principale de Bouteflika. Est-ce que c'est réellement l'Algérie ou est-ce que ce sont les intérêts partisans d'un clan, d'une famille ou d'une tribu? Et je crois que c'est extrêmement, extrêmement inquiétant parce que, in fine, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, ce que peut être la réaction des Algériens, parce qu'ils savent bien qu'ils sont un peu la risée du monde et que cette situation est absolument leur est insupportable, mais que politiquement, elle est insupportable. Un homme qui n'est pas capable d'assumer les charges de sa fonction, qui se présente à sa propre réélection, ça défie l'entendement et on ne voit pas bien comment il pourrait faire fonctionner ou travailler ou faire fonctionner l'Algérie si demain il est réélu. Donc la question aujourd'hui centrale, c'est de savoir quelles peuvent être les réactions. Évidemment, on a une grosse inquiétude. Les choses peuvent déraper et devenir violentes. Jusqu'à présent, elles sont contenues, mais rien n'indique que ce sera toujours le cas.
Vous parliez d'un clan. Pourquoi l'armée et les services de renseignement ont laissé le champ libre à Abdelaziz Bouteflika? Il n'était pas possible de trouver un autre candidat qui soit plus à même déjà physiquement d'assumer les charges de la présidence pour continuer, je dirais, en sorte à défendre leurs intérêts?
Honnêtement, je ne pense pas que ce soit ça le débat ni la question. Je crois que Bouteflika a imposé sa candidature à tout le monde. Il faut quand même souligner que lors de ses trois précédents mandats, il a fait preuve d'une grande habileté en étant parvenu à marginaliser, un, ses adversaires politiques, mais également à l'intérieur du système, à l'intérieur du sérail, tous ceux qui pouvaient représenter un danger pour lui. Il a écarté un certain nombre de généraux qui ont soit été mis à la retraite, soit qui sont partis d'eux-mêmes, de guerre lasse. Donc il a incontestablement une habileté, un savoir-faire manœuvrier qu'on ne peut pas nier. Et il a renforcé au fil des années ses positions dans l'appareil et il s'est imposé au sérail. Il avait eu cette formule lorsqu'il avait été élu la première fois en 1999. « Je ne serai pas un trois quarts de président ». C'était un message qui s'adressait évidemment à l'armée. Et par conséquent, effectivement, il n'a jamais été un trois quarts de président. Il a assumé les pleines prérogatives de sa fonction en ayant les mains libres et en bénéficiant des ressources que lui a apporté la manne pétrolière. Donc, il ne peut même pas s'abriter derrière un tel ou un tel ou se défiler derrière ses responsabilités. Il est 100% responsable. Et cette candidature est une candidature qui lui ou sa famille, on ne sait pas, ont voulu, ont souhaité pour préserver les intérêts de cette famille, de ce clan, de cette tribu, je ne sais pas ce qu'il faudra dire le moment venu. Et donc, c'est quelque chose qui était mûrement réfléchi, qui n'a pas été négocié. C'est très important à souligner.
Les Algériens semblent résignés, et ce, je dirais presque à chaque élection présidentielle. Pourquoi ce sentiment, vu de l'extérieur en tout cas, de résignation de la part des Algériens, même si cette année, les expressions de ras-le-bol sont peut-être un petit peu plus nombreuses que les fois précédentes?
Ce sentiment est totalement faux. On ne peut pas dire que les Algériens sont résignés. Cela fait déjà très longtemps, c'est pas nouveau, qu'ils sont détournés de la question politique. Ça n'est pas la même chose et qu'ils ne vont pas voter parce qu'ils savent parfaitement comment fonctionne le système et que finalement, leur voix n'a pas beaucoup d'importance. La question, elle est plutôt de savoir comment les Algériens se battent pour tenter d'améliorer leurs conditions de vie et leur sort, et non pas le sentiment ou la sensation qu'ils sont résignés. La réalité, c'est que tous les jours en Algérie, il y a des manifestations, des protestations, des affrontements qu'on chiffre par milliers sur l'année 2012, par exemple, ou 2013. Donc les Algériens ne sont pas résignés, Ils se sont simplement, ils se mobilisent sur ce qui fait leur vie quotidienne et qu'ils tentent en se battant à travers des associations, à travers des organisations comme ça ponctuelles dans les villes, dans les wilayas ou dans certains villages. Ils tentent d'apporter un peu de mieux à leur vie quotidienne et qu'ils n'attendent rien de la politique. Ils savent que ce système est corrompu, n'est pas prêt de se réformer et par conséquent, ils n'attendent rien de ce régime ni de ce système. Et je crois qu'il est très important aujourd'hui de souligner qu'ils ne sont pas résignés, mais qu'ils attendent vraiment que quelqu'un simplement vienne leur parler. Personne, aucun homme politique, aucune femme politique en Algérie ne s'adresse à la population. Personne ne connaît la réalité profonde de ce pays.
Alors il y a l'apparition d'une coalition de boycott, cette fois qui refuse tout simplement de participer au scrutin présidentiel, avec la volonté de créer une alternative au régime actuel. Est-ce que c'est crédible ou non, en sachant que cette coalition est surtout dominée par des partis islamistes ?
C'est un début, islamiste, il représente un courant extrêmement important dans la société algérienne. C'est quelque chose qui s'est fantasmé tous les hommes politiques en Algérie depuis le coup d'État de janvier 92, c'est de tenter de capter l'électorat islamiste. On verra ce que donnera ce mouvement Barakat, mais pour le moment, là encore, on ne voit pas de mobilisation extrêmement importante. De toute manière, toutes les manifestations sont interdites à Alger. Et on a vu notamment ces deux dernières semaines que tous ceux qui avaient tenté de manifester avaient été soit matraqués, soit arrêtés. Par conséquent, les moyens d'agir eux-mêmes sont limités. Et je crois que ce mouvement Barakat peut être porteur. Il faut le construire, il faut le moderniser, il faut lui donner du contenu. Mais je pense qu'il peut être porteur de quelque chose, effectivement. C'est un des aspects plutôt positifs. Les Algériens, on le voit, ne sont pas démobilisés.
Cette stabilité du régime qui se perpétue d'année en année. Et puis d'un autre côté, donc cette société algérienne qui, malgré tout, change, évolue, se mobilise. Est-ce que c'est possible d'avoir la cohabitation comme ça, presque schizophrénique, entre l'État et la société ?
C'est un point extrêmement important. Depuis au moins 25 ans, c'est une société schizophrène, bien sûr. Il y a une cohabitation qui se fait de plus en plus difficilement. Et en plus, en Algérie, on n'a jamais connu la démocratie réelle. On ne parle pas factice ou formelle. On n'a jamais connu de démocratie réelle. Il y avait des médiateurs dans les années 90. Il y avait des gens qui étaient des intermédiaires entre l'État et la société, entre les élus et la société, qui étaient capables de faire remonter des messages. Tout cela a été broyé, éliminé, écarté par l'appareil d'État, notamment pendant la guerre fratricide des années 90. Et par la suite, grâce à l'argent du pétrole, on a corrompu dans l'esprit les Algériens. Avec l'argent, la moindre manifestation provoquait toujours la même réaction. Combien vous voulez ? Les augmentations de salaire étaient absolument mirobolantes. Derrière tout ça, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique. L'argent ne fait pas tout. On ne construit pas un pays simplement avec de l'argent. On le voit bien. On voit ce qu'il est advenu de la Libye. On voit dans quel état est l'Algérie. Le Maroc voisin n'a pas de pétrole. Or, on voit que ses infrastructures, notamment routières, sont bien meilleures. La qualité de vie au Maroc est bien meilleure qu'en Algérie. Alors que dans l'absolu, le revenu par capita d'un Algérien est plus élevé que celui d'un Marocain. Il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement c'est une société schizophrène et qu'il y a une toute petite clique dans ce pays qui représente 2, 3, 4% de la population qui vit très bien et qui vit à côté de ce peuple, qui ne vit pas avec ce peuple.